Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis, qui sera animée aujourd'hui pour le pilier pour l'équipe pays des Nations Unies, pilier développement, Florence Marshall, l'équipe le pilier humanitaire, Médard Lobota. Pour la situation sécuritaire et militaire, nous avons le lieutenant-colonel Bass et moi, je suis Madnoj Mounoubaï. Commençons tout de suite avec la MONUSCO. La communauté internationale a célébré hier, 6 novembre, la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Dans son message publié à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré, et je cite, « La guerre et les conflits armés défont le tissu du développement durable. Ils accroissent la pauvreté, réduisent toute possibilité et sapent les droits fondamentaux de l'être humain. Nul pays touché par un conflit n'a atteint un seul objectif du millénaire pour le développement. » Ban Ki-moon pense qu'il nous faut également reconnaître que la paix durable et le développement après un conflit passent par la protection de l'environnement et une bonne gouvernance des ressources naturelles. À ce jour, 6 missions de paix des Nations Unies ont été chargées d'aider le pays hôte à reprendre le contrôle de sa base de ressources et à mettre fin aux activités d'extraction illicite menées par des groupes armés, a rappelé le secrétaire général des Nations Unies. Le texte intégral de cette déclaration est disponible et vous pourrez l'avoir à la fin de cette conférence de presse. Nous passons aux activités de la MONUSCO, commençons par les droits de l'homme. Du 29 octobre au 2 novembre 2012, dans la ville de Bandundu, province de Bandundu, le tribunal de grande instance de Balungu, siégeant en audience foraine, a rendu cette décision dans 15 dossiers de violences sexuelles. 14 détenus ont été condamnés de 2 à 14 ans de prison et à payer des amendes et des dommages et intérêts aux victimes. Un détenu a été acquitté pour insuffisance de preuves. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a apporté un appui financier au tribunal pour le déplacement de 3 juges, un magistrat de parquet et un greffier, ainsi que la tenue de l'audience à la prison centrale de Bandundu. Cet appui entre dans le cadre de son programme national d'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles, avec le soutien de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. Nous terminerons avec la police. Depuis hier, 6 novembre 2012, la deuxième phase de formation de base en police de proximité a débuté au centre de Bakolé à Kananga, dans la province du Kasaï occidental, avec 300 participants. La formation est conduite par la police MONUSCO en partenariat avec la coopération britannique. Une autre session similaire de 6 mois commencera le 9 novembre. Elle concerne 500 policiers et se tiendra au centre de Kasangulu, dans la province du Bas-Congo, et cette formation sera en partenariat avec la coopération japonaise. Ces deux formations entrent dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Je passe maintenant la parole à Florence Marshall.
Merci Mounoubaï, bonjour à tous. L'amélioration de l'efficacité du développement est au cœur de discussions engagées depuis hier à Kinshasa à l'initiative du gouvernement congolais en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, le NEPAD et les coopérations belges et allemandes. L'atelier réunit plus de 100 participants venus d'une vingtaine de pays africains et représentant les gouvernements, les institutions africaines, les partenaires techniques et financiers et la société civile. Il se tient jusqu'à demain jeudi et il porte sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat de Busan, Busan du nom de la ville de Corée du Nord où l'accord a été signé l'année dernière, et la mobilisation, donc cet atelier porte sur la mise en œuvre de cet accord et sur la mobilisation des parties prenantes à la plateforme africaine pour l'efficacité du développement. Je vous rappelle que le nouveau partenariat de Busan, conclu il y a un an, jette les bases d'un modèle de partenariat pour la coopération différent différent, car désormais axé sur des perspectives de développement durable et non sur la gestion de l'aide extérieure comme par le passé. Ce qui constitue un véritable défi pour la communauté internationale en général et pour l'Afrique en particulier, car ce continent a encore besoin de la coopération internationale pour assurer son développement. Le PNUD, au niveau mondial, conjointement avec l'Organisation de la coopération et de développement économique, l'OCDE, assure le secrétariat technique de ce partenariat. Le bureau pays d'ONU Femmes en RDC a tenu la semaine dernière sa première réunion de concertation pour la mise en place d'un conseil consultatif de la société civile. Ce conseil aura une double mission, tout d'abord enrichir les politiques et programmes de développement grâce à l'apport de l'expertise et des connaissances de la société civile, et en second lieu promouvoir un partenariat durable entre ONU Femmes et la société civile congolaise en vue de faire avancer l'agenda du genre ainsi que l'autonomisation des femmes en RDC. Ce conseil sera composé de 15 membres provenant des réseaux des organisations féminines, mais aussi d'autres ONG et organisations à la base, qui toutes doivent être respectueuses des valeurs principales des Nations Unies. Et les membres devront également démontrer une connaissance avérée du terrain ainsi que des résultats dans les domaines du genre, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Journalisme d'investigation, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème d'un atelier que l'UNESCO organise mardi 13 novembre prochain à Kinshasa, un atelier ouvert aux journalistes qui se sont inscrits au préalable. Cette formation vise à répondre à la problématique de la qualification des journalistes professionnels en matière de journalisme d'investigation d'une part, et d'autre part de leur participation à la promotion de la bonne gouvernance. Atelier qui visera également à répondre et à aborder le thème des moyens alloués aux enquêtes journalistiques poussées sur des sujets comme la lutte contre la corruption et le crime organisé, contre toutes sortes de violations des droits humains, en particulier les droits des enfants, de la femme et des minorités sociales, et sur des phénomènes sociaux. Le pouvoir des sciences à construire un monde meilleur par l'intelligence humaine, la recherche scientifique, l'innovation offre des réponses aux défis qui nous semblent aujourd'hui insurmontables. La science est notre meilleur atout pour soutenir le développement inclusif et équitable, construire une durabilité mondiale dans une ère d'incertitude face aux limites de notre planète. Ce sont les contenus majeurs d'un message de la directrice générale de l'UNESCO diffusé à l'occasion de la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, une journée que la communauté internationale célébrera ce samedi 10 novembre. Le texte intégral du message de Madame Bokova, directrice générale de l'UNESCO, vous sera remis à l'issue de la conférence de presse. Je vous remercie.
Merci Florence. Je passe la parole à Médard Lobota.
Merci Monsieur Mounoubaï. Sur le plan humanitaire, les pluies diluviennes qui s'abattent sur des villages dans les territoires des Dungu et Nyangara, dans les districts de Ouélé en province orientale, ont inondé des habitations situées le long de cours d'eau de la région, selon des sources locales. Outre les 8 quartiers touchés dans les cités de Dungu et Nyangara, ces inondations affectent également une dizaine d'autres villages, dont Amadi, Baga et Tundulu. Dans la seule cité de Dungu, la société civile a déjà enregistré 343 ménages, soit 1796 personnes ayant tout perdu dans les inondations. Bien qu'il n'y ait pas encore d'estimation globale pour le moment, on estime que près de 20% des 85 000 personnes habitant la région, soit approximativement 17 000 personnes, sont touchés par ces inondations. Ces inondations ont déjà provoqué des déplacements forcés des populations, détruit des habitations et autres moyens de subsistance, pollué les sources d'eau et expose ces populations à des risques sanitaires dont le choléra et le paludisme. En attendant des évaluations multisectorielles programmées dans les prochains jours, les humanitaires basés à Dungu ont développé un plan d'assistance pouvant leur permettre de répondre aux besoins urgents des personnes sinistrées. Donc, nous voulons rappeler que les territoires des Dungu et Nyangara font souvent face aux inondations entre le mois de septembre et novembre de chaque année. Au nord Kivu, Le Programme alimentaire mondial a apporté depuis le 1er novembre 2012 180 tonnes de vivres à 14 000 personnes déplacées internes du camp de Mugunga 3. Cette assistance couvrira les besoins alimentaires de ces personnes pendant 30 jours et s'étendra sur l'ensemble des 31 camps de déplacés sous la coordination du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Nord Kivu. En partenariat avec l'ONG LWF, le PAM a fourni également des repas chauds à plus de 7900 élèves répartis dans 6 écoles primaires des Kanyarushinya dans les territoires de Nyiragongo. Plus de la moitié sont des élèves déplacés. Pour l'année scolaire 2012-2013, les PAM prévoient de nourrir plus de 235 000 écoliers dans 380 écoles primaires dans la province du Nord Kivu. Revenons en province orientale où 269 cas de rougeole, dont 17 décès, ont été rapportés dans 3 zones de santé, celles de Basoko, Opiengé et Yaouma, dans le district de la Tiopo, dans la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2012. La situation dans la zone de santé d'Opiengé est inquiétante, avec 5 décès sur un total de 25 cas rapportés, soit un taux de létalité de 20%. Cette situation inquiète la communauté humanitaire, d'autant plus qu'il n'y a aucun acteur qui appuie ces zones de santé. Cette épidémie de choléra, de rougeole, s'il vous plaît, touche également les districts du Bawele, où 250 cas, dont 8 décès, ont été notifiés au courant de la même période. Une équipe d'une ONG internationale y conduit des évaluations et pourra, au besoin, organiser la prise en charge. Depuis le début de l'année, la province orientale est confrontée à plusieurs problèmes sanitaires demandant des interventions d'urgence, dont l'épidémie de choléra et celle de la fièvre Ebola. Je vous remercie.
Merci. Je passe la parole au lieutenant-colonel Bass.
Merci, monsieur le porte-parole, et bonjour à tous. De manière générale, nous pouvons commencer par l'ouest de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire a été jugée calme durant la semaine dernière. Au Kasaï oriental, le 29 octobre 2012 a été lancée dans le district de Sankuru la première phase de la mission conjointe d'évaluation de la situation sécuritaire, composée des sections civiles et militaires de la MONUSCO, ainsi que des représentants des institutions et forces de sécurité congolaises, dans le but d'évaluer l'environnement sécuritaire et de consolider la paix dans cette zone. Il faut aussi signaler que cette mission a aussi poursuivi, dans le cadre de sa deuxième phase, une visite à Lomela, située à 450 km au nord-ouest de Mbujimayi. Un environnement sécuritaire stable, mais toutefois imprévisible, a de nouveau été observé en province orientale durant la semaine écoulée. Le bataillon marocain de la force de la MONUSCO et les troupes congolaises maintiennent la pression sur les groupes armés dans les régions de Dungu, Doru et Bangadi, en poursuivant la conduite de l'opération Choumangoumé ou Point d'Acier, dans le but de contrôler le secteur et d'y déloger les forces négatives. Pendant la période sous examen, les forces onusiennes et congolaises poursuivent également dans la même région de Dungu l'opération Bienvenue à la paix, afin d'inciter à la reddition les éléments résiduels des groupes armés, notamment ceux de l'armée de résistance du Seigneur LRA, encore présents dans la zone. L'impasse observée dans le processus d'intégration des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, rend l'environnement sécuritaire assez précaire en Ituri. Le 3 novembre, en réaction aux incidents perpétrés récemment par des groupes armés dans le territoire de Mambasa, notamment l'occupation de 8 villages à Etombo et Pangoy, ainsi que les pillages à Lohumu, le bataillon bengladais de la force de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel dans la localité de Mambasa, dans le but de contrôler la région, de dissuader les activités des forces négatives, de rassurer et protéger les populations locales. L'environnement sécuritaire au nord Kivu demeure toujours tendu et volatile. Des groupes armés ont accru leurs activités pendant la période considérée. L'ex-groupe armé mutin du M23, rebaptisé l'armée révolutionnaire congolaise, continue de recruter dans les régions sous son contrôle. Les rapports ont signalé récemment l'enrôlement de 50 jeunes de la localité de Kinyandoni au sein de ce mouvement. Le 1er novembre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, lors d'une opération de bouclage et de ratissage, délogé le lieutenant-colonel Badégé, du M23 avec ses éléments et repris le contrôle de la région de Busumba au nord de Kichanga. Les mutins se sont repliés dans la région du parc national de Virunga. Le 3 novembre, 6 personnes dont 5 femmes et un enfant qui se rendaient au champ ont été tués par les miliciens Nyatura à Buloto, situé à 10 km à l'ouest de Masisi, entre Muranga et Muhondo. Informé, le poste opérationnel de la force de la MONUSCO de Masisi a immédiatement déployé une patrouille d'intervention rapide dans la région, mais aussi de patrouilles héliportées à Buloto et Muhondo dans le but de dominer la zone, dissuader les assaillants, rassurer et protéger les populations civiles. La force a en outre facilité le transfert en toute sécurité des corps vers l'hôpital des Médecins sans frontières. Le même jour, un soldat FRDC a été tué à la frontière entre la RDC et le Rwanda à Kanyanja, située à 10 km de Goma. Les investigations sur cet incident sont en cours entre les deux parties, appuyées par les membres du mécanisme conjoint de vérification, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Au chapitre des reddition dans la province, du 29 octobre au 1er novembre 2012, au total, 11 éléments issus des différents groupes armés parmi lesquels 2 éléments Maïmaï Pareko, patriotes résistants congolais, un capitaine Maïmaï FDN, force de défense nationale, 2 FDLR Foka, force combattante à Bakougoudzi, 3 éléments de l'ARC, 2 Maïmaï APCLS, 1 Maïmaï Kirikicho se sont rendus avec 2 armes AK-47, une grenade et des munitions au poste opérationnel de la MONUSCO de Kiwanja, Kanyabayonga, Walikale, Rwindi et Otobora. L'environnement sécuritaire est demeuré volatile au sud Kivu suite aux rivalités persistantes entre groupes armés, notamment les Maïmaï Rahia Mutomboki et les FDLR. La force de la MONUSCO soutient avec engagement le déroulement des opérations conjointes en cours avec les forces gouvernementales, notamment Djenga ou Salama ou Consolider la paix, Tahazari alerte, à travers le déploiement du 2e bataillon pakistanais qui a établi un poste de commandement conjoint, 3 postes de commandement avancés et 12 postes opérationnels sur le terrain dans le but de soutenir les opérations dans la province et assurer la protection des populations civiles. Le 26 octobre, suite à l'incident de 300 maisons et le meurtre de 7 civils dans la région de Masangu, située à 20 km à l'ouest d'Uvira, perpétrée par les éléments du Front National de Libération, FNL, basé à Mouchouli, la brigade du Sud Kivu a déployé dans la région une patrouille armée robuste dans le but d'interdire toutes nouvelles exactions des rebelles contre les populations et leurs biens, dominer la région, rassurer et protéger les mêmes populations locales. Le 30 octobre, la brigade du Sud Kivu de la force de la MONUSCO a, dans le cadre de l'opération unilatérale Suite Protection ou Protection Rapide, établi 4 postes opérationnels à travers la zone de responsabilité en vue de combler les vides sécuritaires occasionnés par le redéploiement des unités FRDC vers le nord Kivu. Le 31 octobre, dans le cadre de l'opération conjointe Tahazari, lancée pour lutter contre les groupes armés dans les régions situées au nord, au sud et à l'est du territoire de Fidji, un élément Maïmaï a été tué et une arme AK-47 récupérée au cours des affrontements avec les FRDC au village Makola, situé à 25 km à l'est de Kilembwe. Le 3e bataillon pakistanais de la force de la MONUSCO a déployé 18 postes opérationnels temporaires pour soutenir cette opération et protéger les populations civiles face aux représailles des groupes armés. Le 2 novembre, dans le cadre de l'opération conjointe Djenga Usalama, les forces spéciales égyptiennes de la force de la MONUSCO ont établi un poste opérationnel à Numbi, situé à 18 km au sud-ouest de Minovi, dans le but de soutenir des opérations héliportées dans la région et protéger les populations civiles par la conduite de patrouilles intensives. Le 5 novembre, les FRDC ont, au cours d'une opération contre les éléments FNL à Masango, situé à 20 km à l'ouest de Kamivira, appréhendé un combattant et récupéré une radio, 3 panneaux solaires, 3 armes AK-47 ainsi qu'une arme lourde. Le bilan des opérations conduites dans cette province entre le 18 octobre et le 5 novembre 2012 fait état de 2 FDLR et 1 Maïmaï Yakutumba tués, 19 autres Maïmaï capturés, 10 AK-47 ont également été récupérés. Au Katanga, l'environnement sécuritaire a été jugé calme la semaine passée, mais demeure volatile à cause de la résurgence d'activités des FDLR et des Maïma Guédéon dans les régions de Manono, Mitouaba et Poueto. Le 28 octobre, 6 personnes ont été tuées et d'autres blessées lors d'accrochages entre les FRDC et les Maïma Guédéon au village Kakonda dans les territoires de Poueto. Ces combats ont aussi provoqué le déplacement de plusieurs personnes de la région de Poueto. Le secteur 2, quant à lui, est resté relativement calme. Et enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous avons conduit 1408 patrouilles armées, dont 679 nocturnes, fourni 57 escortes, pendant que nos observateurs militaires ont, quant à eux, conduit 270 autres patrouilles. Je vous remercie de votre attention.
Merci, mon colonel.